Je m'appelle Olivier Rollinger, je suis né à Cancale, je suis depuis cuisinier et compositeur de mélange d'épices.
Quand et surtout comment sait-on qu'il est temps d'entamer un nouveau chapitre de notre vie? Eh bien écoutez, nul doute que l'histoire que vous vous apprêtez à écouter vous apportera quelques réponses. Cette histoire, c'est celle d'Olivier Rollinger. Rollinger, vous voyez, chef multi-macaronné, étoilé, un homme qui a pris des coups, et pas des moindres, tout au long des chapitres de sa vie, comme il dit. Place donc à Rollinger, le sage, le mythe de Cancale, le maître de la baie du Mont-Saint-Michel. Et si vous trouvez que j'en fais trop, écoutez plutôt.
J'ai eu la chance, effectivement, de naître à Cancale, dans ce petit port de pêche, entre ciel et mer, qui est le premier petit port breton, berceau de l'ostréiculture. Et j'ai eu la chance, effectivement, d'apprendre à godiller sur un bateau avant de faire de la bicyclette. Passé toute ma petite enfance et encore aujourd'hui, dans une maison du début du 18e, qui avait été construite par des chasseurs d'épices, que l'on appelait, des armateurs. Mon enfance a été bercée par ces récits d'aventures, par ces chants de marins qui sentaient la vanille, le benjoin, le zédoère, les poivres. Lorsque j'ai grandi, c'était Stevenson, c'était Conrad, c'était Bernardin de Saint-Pierre. C'était tous ces auteurs qui portent au voyage, à l'imaginaire. Et très vite, je suis passionné pour l'aventure maritime, pour toute l'histoire de l'aventure maritime de Saint-Malo, l'histoire de la pêche à la morue, l'histoire évidemment de la course et des corsaires, l'histoire des caporniers. Je faisais toutes les bêtises possibles et inimaginables. Mon père était parti, m'avait abandonné, j'avais 13 ans. Enfin, avait abandonné sa femme et ses enfants. Et j'étais un peu livré à moi-même. Ma mère n'avait plus beaucoup d'autorité sur moi, donc toutes les bêtises, je pense que je les ai faites. Il y a une chose, par contre, que je faisais bien, je travaillais bien à l'école, parce que je ne voulais pas la rendre encore un petit peu plus malheureuse face à cette situation. Donc, effectivement, j'ai fait un bac S et maths sup. Je devais préparer, effectivement, les grandes écoles. Et je faisais beaucoup de bateaux et je faisais beaucoup de motocyclettes. Parce que comme je voulais aller voir, j'étais persuadé que le communisme, c'était formidable. Donc, on allait à Mobilhead dès l'âge de 16 ans et demi avec des faux papiers en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Bulgarie. Et d'ailleurs, pour finir, je devais avoir 17 ans et demi en prison en Pologne, à Katowice, pour propagande politique anticommuniste. Vous imaginez, donc on est revenu, et puis on voit beaucoup de courses au large, beaucoup de compétitions, beaucoup de bateaux, beaucoup de voiles. Et puis arrive cette fameuse nuit du 30 mai 1976, où là je suis agressé par 5 mineurs, et qui me tabassent à coups de baramine, et qui me laissent pour mort. Bon, je vais passer plusieurs jours dans le coma, je vais passer pratiquement près de 2 ans dans les cliniques et les hôpitaux avec des greffes osseuses, des machins, des trucs. Je suis pas persuadé que je vais pouvoir remarcher. Et là, j'ai un espèce de ressort qui se comprime sur ma vie. J'avais 20 ans et demi. Et je me promets plusieurs choses. D'abord, que cette seconde vie, elle va être un jeu. La deuxième, c'est que je ne deviendrai jamais grand. Donc, rester toujours avec cet enthousiasme de la vie, de l'émerveillement. Peut-être aussi de toujours serrer dans la main l'enfant que j'ai pu être. C'est-à-dire batailler contre l'injustice, batailler contre ces choses. Je pense qu'on est quand même plus jolie personne lorsque l'on est enfant que lorsqu'on devient adulte. Et moi, ma thérapie, c'était surtout de ne pas rentrer dans la vengeance. Aller rechercher absolument ces 5 mineurs. D'ailleurs, depuis, il y en a un qui m'a écrit. Voilà, il n'y a pas très longtemps. L'autre point, c'est au contraire, peut-être encore beaucoup plus, aller à la rencontre de l'autre. Et mon approche de la cuisine, en particulier avec les épices, plus les personnes sont différentes, plus elles m'intéressent. Parce que je pense que la première des richesses, c'est la rencontre de l'autre et du différent. Les gens qui sont extraordinairement pauvres sont les gens qui n'aiment pas les gens. Les gens qui sont privés de l'intérêt pour les autres, ce sont les plus pauvres au monde. J'ai réussi à m'en sortir. J'ai eu une chance inouïe aussi, c'est d'avoir une mère telle que je l'avais, et surtout d'avoir rencontré une femme à ce moment-là qui va m'aider à surmonter toutes ces épreuves et qui va m'accompagner dans ce délire de partir dans cette espèce de truc de cuisine. Alors pourquoi on est parti dans la cuisine? Parce que lorsque, pendant cette période d'adolescence, ou de convalescence plutôt, j'étais arrivé dans mon fauteuil roulant, et tous les copains de la petite enfance, qui étaient devenus pêcheurs, ostréiculteurs, pêcheurs de homards, pêcheurs de poissons, ceux qui étaient devenus cultivateurs, qui faisaient des choux, des pommes de terre, des poireaux, du cidre, venaient me remonter le moral. Et j'avais aussi les copains et les copines, étudiants, qui venaient avec des bouteilles. Et il y avait une tablée d'au moins de 20 personnes, toujours dans cette fameuse maison. C'était la fête, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche soir. Et ma mère a repris goût à la vie, comme auparavant, avant mes 13 ans, où la maison était toujours pleine. Je raconterai parce que c'était une génération qui avait connu la guerre. Mon père était médecin, c'était le médecin de province, c'était la bourgeoisie de province. Ils avaient eu peur, ils avaient manqué, ils dépensaient tout. C'était une espèce de vie à la Françoise Sagan. Je voyais la maison qui retrouvait ses mêmes parfums, ma mère qui reprenait goût à la vie, qui cuisinait. Je rencontre donc Jeanne à ce moment-là, qui termine ses études de pharmacie. Et brutalement, je dis, mais et la cuisine, d'être autour de cette table, mais c'est bien partager un bonheur de vivre extraordinaire avec toute cette nature qui arrive, avec ces garçons, ces filles qui amènent tous ces produits de la mer, du potager, de la campagne, c'est extraordinaire. Et là, je décide de dire, je vais apprendre la cuisine. J'ai 24 ans. Je n'ai pas touché une casserole. Je commence à marcher. J'ai réappris à marcher en faisant le tour de l'Irlande sur un bateau. Je suis parti avec mes béquilles, je suis revenu sans mes béquilles. Et Jeanne me dit, tant t'es un peu dingue. Ma mère me dit aussi, t'es un peu dingue. Mais c'était la seule manière aussi de sauver la maison. Parce que ma mère n'avait plus les moyens financiers de l'entretenir. Donc il y avait beaucoup de choses comme ça. On regarde ça avec beaucoup de recul. Vous savez, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on a votre âge, on regarde, on fait des choses, on ne sait pas pourquoi on les fait, on ne sait pas pourquoi on prend des virages à 90 degrés tout d'un coup. En fait, il y a une multitude de raisons. C'est après, avec un peu de recul, dire, oui, j'ai fait ça, ah, oui, il n'y avait pas les moyens, donc on aurait été déraciné, on aurait perdu notre coquille. C'est terrible de perdre une coquille, surtout lorsqu'on habite Cancale, pays des huîtres. Perdre une coquille, c'est son enveloppe, c'est un traumatisme. Et bon, j'ai dit, on va ouvrir une table d'hôte, c'était pas un restaurant, on va ouvrir une table d'hôte, juste tiens, pour rentrer un petit peu d'argent, parce qu'on a une table d'hôte avec les copains et les copines. On va rentrer un petit peu d'argent, on va pouvoir changer la chaudière et refaire la toiture. Puis après, on verra bien ce qu'on fera. Je vais passer ce CAP en accéléré à Rennes, à la chambre de commerce de Rennes, en 6 mois. On a plus fêté mon CAP que la thèse de pharmacie de ma femme. Évidemment. Et là, j'ai tout de suite... Mais faire quelle cuisine? Parce que c'est ça aussi qui est important. Vous avez beau avoir tous les plus beaux produits, ça sont tous les ingrédients, c'est de la boîte de couleurs, si je puis dire. Mais pour raconter quoi? Alors évidemment, on a dit raconter le bonheur de vivre au quotidien, mais au-delà, le plaisir, eh bien pour raconter l'instant. Je suis à la recherche du goût du vent qui arrive justement sur nos falaises, sur notre lande. Et j'aime le vent parce qu'il vient d'ailleurs. Ces vents... C'est l'histoire de l'aventure maritime, c'est ces vents qui viennent du Grand Sud, donc déjà chargés de ces parfums justement de poivre, de vanille, de cardamome, de curcuma et de coriandre. C'est celui qui arrive d'ouest, qui avec peut-être ses parfums de vanille et de piment, voire de cacao. Mais en tous les cas, j'étais porté par cette histoire et j'avais 3 points que je voulais exprimer. Le premier, c'est les sortilèges de la baie du Mont-Saint-Michel. Ce pays habité des fées, on ne sait pas s'il y a encore la mer, mais ce n'est plus la terre, une espèce d'apesanteur. Et comme tous ces lieux au monde où le ciel, la terre et la mer se confondent sur même ligne, ça vous met en état d'apesanteur et devient un lieu spirituel très fort. Au-delà, les croyances de l'arrière-pays, les pays celtiques. Du côté de ma mère, on s'appelle Chouan, descendant de Jean Chouan, et nous, la celtitude, ça veut dire quelque chose. Et enfin, un point essentiel, le marchepied de l'aventure, qu'est l'horizon. Pour nous, Malouins, Bretons, réussir, c'est partir. Et comment vais-je traduire cet esprit d'aventure, de capornier, de course, de toujours aller sur la mer, sur d'autres rivages, sur d'autres soleils. Et cette dimension-là, j'ai voulu justement utiliser, j'ai trouvé comme moyen d'expression, l'utilisation des épices. Thank you. celui qui aujourd'hui, d'ailleurs, le directeur du musée maritime de Saint-Malo, faisait une thèse sur la Compagnie des Mers du Sud. Cette fameuse compagnie, composée de 8 familles de Saint-Malo, qui va devenir plus tard la Grande Compagnie des Indes françaises. Et à la fin du XVIIe, il me raconte tout ce que l'on pouvait trouver dans les murs de Saint-Malo. Les cotonnades indiennes, les soieries, la porcelaine Céladon. Puis je lui dis, mais à manger, que ramenait-il? Et là, il me dresse une liste de 14 épices. Certaines viennent déjà de Chine, comme le poivre Sichuan et la badiane. D'autres viennent des îles Moluques, comme le clou de girofle et la noix de muscade. D'autres viennent d'Inde, comme les poivres, les curcumas, cardamome, la cannelle et gingembre. La cannelle vient du Sri Lanka. Et puis déjà, depuis un certain temps, du Moyen-Orient, coriandre, cumin, fenugrec, fenouil. Mais déjà, à la fin du XVIIe, du Nouveau Monde, le piment, la vanille. Et là, je vais prendre ces 14 épices et je vais commencer mon premier mélange. Et là, je tâtonne. Je tâtonne dans tous les sens, je suis là. Mais il est hors de question que j'en laisse une de côté et il est hors de question que j'en prenne une 15e. C'est le cadre créatif. C'est-à-dire que, et je vais bâtir toute ma cuisine de cette manière-là, toute recette est dans le prolongement d'une expédition maritime, raconte une histoire, une aventure, un moment très fort. Et un peu comme une légende, il y a un fond de vérité. Et là, je vais faire un peu mon premier mélange, Retour des Indes.
Les histoires de 28 minutes.
Alors évidemment, Retour des Indes. C'est les journalistes gastronomiques, souvent, ils ont la tête près du bonnet. Ils lui disent, oh, il a dû aller en Inde, puis il a ramené une recette. Non. D'abord, je n'aurais pas eu l'indécence de l'appeler Retour des Indes, j'aurais appelé Retour d'Inde, parce qu'heureusement, le temps des colonies est passé. Mais l'idée, c'était Retour des Indes orientales et Retour des Indes occidentales. Et de savoir que presque la mondialisation des saveurs était déjà faite à la fin du XVIIe, dans les murs de Saint-Malo. Quelle aventure extraordinaire. Et j'ai voulu rendre hommage à cette aventure merveilleuse. Et évidemment, je l'ai associée à du Saint-Pierre que mes copains pêcheurs me ramenaient et à des pommes que mes copains cultivateurs me ramenaient. C'était bien là l'expression de mon environnement naturel, l'expression de mon environnement culturel. Le plus frais pêché, le plus frais cueilli et cette formidable histoire du pays de Saint-Malo. Et c'est comme ça qu'une cuisine s'est créée, mais avant les étoiles et peut-être l'essentiel. Vous savez, on dit toujours travailler avec les produits qui nous entourent. Et je pense que l'essentiel, c'est de travailler avant tout avec les gens qui nous entourent en tant que clients. Si les gens du pays comprennent l'histoire, parce qu'en plus, cette maison, elle n'était pas devant la mer, il n'y avait pas de parking, elle était dans le haut de Cancale. C'était une histoire de dingue de faire ce truc, alors qu'il y avait déjà 35 restaurants sur le port de Cancale où on sert des plateaux de fruits de mer, des huîtres, des soles meunières, du gigot d'agneau flageolet et des crêpes. Et là, je fais une cuisine. Les gens, ils disent, mais il est dingue. Qu'est-ce que c'est que ces épices? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Je ne suis pas venu là pour ça. Mais donnez-moi une moule marinière, quoi. Hein? Mais très vite, les gens du pays ont compris que c'était leur histoire. Et ils se sont appropriés. En fait, les maisons de Bricourt appartiennent à toute cette population de Saint-Malo, tout ce nord de la Bretagne et une partie même de la Normandie, je dirais. Vous savez, pendant des années, on fermait le deuxième samedi soir de décembre. Et là, pratiquement à une table ou deux tables près, pendant plus de 30 ans, c'était les mêmes noms de famille. Et ça c'est pas artificiel. C'est pas les étoiles, les toques, les poètes, les machins qui viennent vous voir avec un regard complètement extérieur et très arbitraire. Non, quand les gens du pays, ils savent très bien que là, vous ne trichez pas sur la qualité des produits, sur l'expression, ce que l'on raconte. Et aujourd'hui, quand je vois mon fils qui recolle toute une jeunesse du pays, je me dis, là, tu es en phase avec ton pays. Et vous êtes en Bretagne, je dis, lorsque vous repartez, vous reprenez la même route. C'est un cul-de-sac, c'est une impasse, c'est une péninsule, c'est un merveilleux potager, enfin, souvent salopé par la culture intensive, mais... c'était un formidable potager au-dessus de la mer. Mais néanmoins, on n'est pas sur la Nationale 7, nous. Hein. C'est pas je suis à Paris et je vais où je suis sur la grande colonne vertébrale de l'Europe. Donc on ne va pas non plus bouder la, la promotion extraordinaire qu'ont pu nous apporter tout ce monde journalistique, tous ces guides, quels qu'ils soient. C'est évident qu'ils participent au succès, à la réussite d'une maison. Mais néanmoins, je rappelle toujours à notre jeunesse qu'il ne faut pas en faire un objectif final. Parce qu'il y a un seul objectif qui est important, c'est son étoile polaire à soi. C'est ça qui est important. Ce n'est pas celle des autres. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient plus. D'abord, on vivait dans une tour d'ivoire. On s'occupait de ses petits producteurs. On s'occupait évidemment de son équipe. Et on s'occupait de ses clients. Et avec ce petit frisson de sortie des guides. On était dans une tour d'ivoire. Si on avait un producteur, on ne voulait surtout même pas le partager avec le collègue à côté. On voulait se le garder pour soi. Et puis, j'ai vu quand même l'effondrement des pêches, de la pêche de nos petits pêcheurs. J'ai vu la pollution et les algues vertes envahir ma Bretagne. J'ai vu la pollution des nappes phréatiques. J'ai vu de quelle manière on traitait ces gens qui avaient eu le courage d'aller dans des produits bio et avec des semences libres. J'ai vu de quelle manière l'agroalimentaire et l'agro-business, de quelle manière ils ont voulu s'approprier totalement l'alimentation. Et puis bon, les années ont passé, la maladie m'a rattrapé. Donc c'était en 2008. Et j'ai dû fermer le restaurant 3 étoiles alors qu'on était au pinacle de la reconnaissance à l'international. Et j'ai voulu mettre les miens à l'abri parce que j'étais affecté d'une maladie, j'étais pas certain de m'en sortir. Et j'ai préféré mettre tout le monde à l'abri plutôt que qu'il arrive un drame et que tout d'un coup tout le monde se retrouve en disant « bah oui, bah, il est parti ». Et donc j'ai entamé la troisième vie. Donc cette troisième vie, je dis, bon, finalement, tout s'est quand même bien passé dans ma vie. J'ai voulu rendre un peu à celle où... Enfin, voilà, j'ai voulu rendre. C'est que c'est important de recevoir de la vie lorsque la vie vous a gâté, vous a porté plein de choses, plein de bonheur, des choses comme ça. Il faut savoir aussi rendre aux autres, très modestement, hein, mais tu sais, j'avais vu ce qu'avait pu faire... À l'époque, mon ami Lionel Poilane, lorsqu'il avait mis au point des espèces de fours pour cuire du pain dans des endroits où il y avait des drames. Je voulais monter, moi, des cantines, tout ça. Puis, il fallait s'associer avec l'armée, tout ça. C'était très compliqué. Et puis, des personnes m'ont dit, mais pourquoi tu nous parles toujours de tes petits producteurs que moi, je connaissais? Parce que, ah oui, il faut que vous sachiez. On fermait le restaurant 3 mois. Et comme je ne pouvais pas faire de bateau pendant 3 mois, on partait avec les enfants. Et on louait un bateau dans ces lieux qui avaient été parfois défrichés par ces messieurs de Saint-Malo au XVIIe et au XVIIIe. Retrouver ces mêmes destinations. Et là, ben, on a évidemment fait connaissance avec les producteurs d'épices qui nous ont appris énormément de choses. Mais je rachetais quoi? Allez, 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos. Et mais pourquoi tu ne leur rachètes pas des quantités importantes à un prix responsable, puisque tu nous racontes comme quoi ces épices sont d'une qualité exceptionnelle et que les traders qui passent leur achètent le prix du caillou. J'ai commencé à tisser une toile avec ces petits producteurs, avec ces ONG locales, pour obtenir les certifications sanitaires, pour obtenir le packaging, le dédouanement, le shipping et toutes ces choses. Et aujourd'hui, on travaille avec 1200 petits producteurs et on fait plusieurs dizaines de tonnes. Donc, c'était ma compagnie des Indes, à moi aujourd'hui, que l'on mettait, enfin aujourd'hui, c'est la famille qui l'anime. Vous savez, une difficulté, un complexe, un mal-être, un bobo à l'âme, ces trous vides que l'on trouve, tout d'un coup ces Everest ou ces difficultés de la vie, vous permettent d'être ce que vous êtes et ce que vous allez devenir surtout. Et c'est souvent de formidables opportunités. Alors, c'est très difficile à dire sur le moment, parce qu'on est souvent dans la douleur, dans la tristesse, dans la peine, dans la difficulté, en disant « mais c'est pas possible, raconte des conneries ». Oui, mais après, vous allez voir comment... Et c'est pas une histoire de se reconstruire et devenir balèze parce qu'on a pris des coups. Mais c'est de aussi de reprendre la balle au bon, parce que ça vous façonne d'une autre manière. Vous allez porter un regard sur les choses, sur les autres. Vous allez être sensible à des choses. Vous n'auriez pas eu, j'allais dire presque, ces récepteurs si vous n'aviez pas eu cette histoire. Par contre, il y a un secret. C'est que dans une vie, c'est comme dans un roman. La pire des choses, c'est le chapitre qui n'en finit pas. Dans la vie, il me semble qu'il est important de savoir clore un chapitre pour écrire un nouveau chapitre.
Les histoires de 28, du vin blanc et des huîtres. Arte Radio.com.